fantôme. Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Une émission par Nadia Lichtig.
Nous rencontrons aujourd'hui Abraham Poincheval. Abraham Poincheval est un artiste français né en 1972 et qui s'est spécialisé dans des performances où il s'enferme, comme par exemple en 2014, dans un ours naturalisé pendant 13 jours lors d'une performance au musée de la chasse et de la nature à Paris. En 2015, Abraham Poincheval réalise La Bouteille. Il entreprend de remonter le Rhône de Lyon jusqu'à la Suisse, dans une grande bouteille en verre dont le culot mesure 60 cm de diamètre. Il ne peut donc en sortir qu'avec l'aide d'une tierce personne. En 2017, lors d'une exposition au Palais de Tokyo, il s'enferme pendant une semaine dans un rocher de 2,5 mètres, à l'intérieur duquel l'empreinte de son corps a été creusée. Pour cette exposition, il réalise également le dispositif œuf, lui permettant, durant 21 jours, de couver des œufs de poules jusqu'à leur éclosion, devenant en partie leur géniteur. Puis, en 2018, il traverse la Bretagne à pied, 120 km, avec une armure de 30 kg. Puis, la même année, il devient professeur à l'École nationale supérieure de l'architecture de Versailles et enseigne aujourd'hui à l'École supérieure de Beaux-Arts d'Aix-en-Provence. Abraham, on s'est rencontrés l'autre jour au Palais Tokyo. Mmh. La dernière fois qu'on a vu une grande expo de toi en France, c'était au Palais Tokyo, justement.
Oui, tout à fait. C'était en 2018, je crois, à peu près. Et ça avait été un... C'était d'ailleurs un moment assez fort, quoi. Parce que du coup, c'était aussi la première fois que... je peux rentrer dans des pièces dans une si grosse institution, et aussi des performances. Donc voilà, donc ce qui était un double enjeu pour moi. Et parce que voilà, j'ai fait des performances ailleurs, mais plus dans des. soit en extérieur, soit avec des structures peut-être un petit peu moins présentes, enfin moins visibles. Mais c'était aussi intéressant pour moi parce que du coup ça déplaçait les enjeux, ça déplaçait la façon dont j'allais concevoir des pièces, et puis aussi c'était une nouvelle expérience, ouais. De toute façon, la question de l'expérience dans la plupart de mes projets, c'est toujours quelque chose qui m'intéresse et qui me taquine un peu, quoi.
Alors peut-être un peu décrire un peu ce qu'il y avait à voir quand on entrait. Donc il y avait les structures déjà dans lesquelles tu t'enfermes.
Oui, c'était beaucoup. Alors c'était une sorte d'ensemble de pièces présentées à différents endroits du Palais de Tokyo. Donc du coup il y avait des pièces comme La Bouteille qui avait été faite sur le long du Rhône. Il y avait La Vigie qui avait été faite quelques mois avant sur la place de la gare de Lyon à Paris. Il y avait l'ours aussi qui était revenu du Vorlinden. Et aussi c'était un moment assez pour moi plein d'émotions, parce que c'était une pièce que j'avais pas revue depuis longtemps. Et on se pose toujours la question d'une pièce si elle continue à avoir son attrait ou si elle a toujours une force qui lui est propre à elle. Et c'était très émouvant de la retrouver, puis de s'apercevoir qu'il y avait toujours cette présence en fait qui était là de l'ours. Voilà. Et plus, si je ne me trompe pas, deux autres pièces, deux nouvelles pièces. C'était sous l'invitation de Jean Deloisy, qui était à l'époque le directeur du Palais de Tokyo, et Adélaïde Blanc aussi. Donc du coup, c'était aussi c'était de mettre en œuvre dans un cadre moins intimiste, en fait, des pièces comme celle-ci. Et donc du coup, c'était Pierre et œuf, en fait, voilà. Au départ, il y avait eu l'idée d'en faire trois. Je pense que c'est bien qu'on soit arrêté à deux. parce que 2 c'était déjà pas mal, ça fait un sacré challenge pour moi. Et une expérience d'immersion puissante, en tout cas.
Je me souviens très bien de cette pièce de l'ours. Donc, quand on descendait, c'était entre les deux étages.
Oui, exactement.
Et c'était entouré aussi de dessins.
Oui, tout à fait.
Ces plans.
Les dessins, en fait, souvent, mes pièces en fait, sont liées, sont pré-pensées avec des dessins ou des fois suivies de dessins aussi. Parce que c'est une façon aussi de se plonger dans la performance, et puis c'est une façon aussi de raconter la pièce avant qu'elle existe, parce que c'est pas toujours simple quand on va voir des gens et qu'on leur dit ben voilà, j'ai envie de m'enfermer dans un rocher, ou j'ai envie de marcher sur les nuages. Ben, il faut un peu quelques arguments supplémentaires, et quelquefois les œuvres qui sont à côté de la performance permettent ça.
Et c'était avant le Covid ?
C'était avant le Covid, oui, exactement.
Voilà. C'est prémonitoire, quand même.
Il y avait un lien, qui s'est fait par inadvertance, je dirais, cette question de l'enfermement. Mais moi, à la fois, c'était pas non plus vécu comme une... Alors, c'était un enfermement, certes, mais c'était une ouverture aussi. C'était de s'ouvrir différemment, en fait, en tout cas, d'ouvrir une porte du monde un peu différente de celle dans laquelle on est habitué. Enfin voilà. J'en suis né à cette idée de manière assez simple au départ, je pense. J'avais fait pas mal de pièces où j'étais en déplacement, où je marchais, où je traversais des espaces, des choses comme ça, où ça demandait une production physique assez importante en fait pour réussir à réaliser les pièces. J'avais une sorte de double intérêt qui était toujours un peu en opposition, qui était à la fois être au monde, voilà, être dans le monde et en même temps être reclus du monde. Et comment on peut faire que tout ça se s'articule. Je suis toujours assez... assez intéressé par toutes les questions, tous les récits d'ermites, en fait, toute cette question de ces gens qui à un moment, justement, dit quittent le monde, se mettent en retrait du monde. Mais pour moi, c'était plutôt une façon de se mettre dans le monde, c'est-à-dire de se dire, je ne suis pas en retrait, en fait, je suis dans le monde, mais juste, je me place à un endroit où je peux regarder les choses un peu différemment. Voilà. C'est toujours quelque chose qui me passionne, en fait. Et à partir de là, je me suis dit, comment je pourrais inventer quelque chose de cet ordre-là, qui soit quand même sur le territoire de l'art, parce que c'est le territoire où je suis, c'est l'endroit où je me sens, entre guillemets, le mieux pour exister. Et du coup, à partir de là, j'ai imaginé cette idée d'habiter un rocher, cette idée de couver des œufs. L'ours, par exemple, c'est né lors de Girovague, le voyage invisible. En fait, c'était une traversée des Alpes, de France en Italie, en poussant une sorte de capsule en métal, qui était comme une sorte de ce que j'appelais un girovague. Alors, un girovague, c'était repris, en fait, justement, d'une société... qui étaient des ermites, en fait, qui disparaissaient très vite parce qu'ils n'étaient pas attachés à une congrégation, ils rejetaient un peu tout. Et du coup, c'est-à-dire qu'on finit par tous les faire disparaître parce qu'à chaque fois, ils critiquaient. C'était des gens qui avaient l'habitude comme ça d'être assez critiques envers tout. On pouvait appeler ça aussi des mendiants, mais en tout cas, qui à un moment... marque un peu une pensée comme ça des ermites, et qui après s'appelle les folles en Christ aussi, on peut les retrouver par exemple plus en Russie à une époque aussi, et d'ailleurs il y a Dostoïevski qui en parle dans une lettre, quand il a écrit l'idiot, il écrit que l'idiot c'est un folle en Christ, donc c'est le folle en Christ, faire une sorte de lien avec les girovales. Et donc, du coup, ça, ça, ça m'intéressait de prendre de se situer là et de se dire ben voilà, je vais faire un voyage, mais au ras du sol, en poussant cette capsule qui est à la fois un véhicule, un abri, qui était aussi un appareil photo, voilà, et de partir traverser comme ça les Alpes. Et c'est suite à une rencontre un peu qui m'a paru violente en fait, où en fait j'ai croisé des chasseurs et des gardes-chasse italiens qui revenaient, qui descendaient vers les villages et qui ramenaient un cerf qu'ils avaient tué là-haut. Et pour qu'il soit moins lourd, pour que tout ça, ils l'avaient évidé. Et du coup, et voilà, il le descendait. Et je trouvais ça assez puissant parce que j'avais passé quelques temps en poussant cette capsule sans voir âme humaine qui vive, mais par contre beaucoup d'animaux. Et je ressentais comme ça une sorte de relation assez forte, en fait, assez simple. Moi, j'étais juste de passage. Eux, c'était vraiment leur territoire. Je me sentais vraiment que c'était leur espace à eux et qu'ils m'acceptaient tel que j'étais. Brinque-ballant, tout ça. Je pense que ça devait aussi un peu les amuser, les animaux, de voir un espèce de personnage comme ça. Et puis, avec des relations assez simples. Mais par exemple, le soir, ils venaient se frotter à la capsule pour manger les restes éparpillés par terre que j'avais dû laisser tomber, les trucs comme ça. Et voilà, tout à coup, de faire ce passage, de ce retour à l'humanité, enfin aux humains. Et puis, de voir des humains qui étaient contents de me voir, parce qu'en fait, cette pièce aussi avait créé une sorte de récit sur la montagne. C'est-à-dire que les gens se racontaient l'histoire de ce fada qui poussait une capsule en métal à travers la montagne, qui faisait beaucoup rire, mais en même temps, où j'avais une sorte de notoriété, parce que du coup, je faisais quand même quelque chose qui était assez incroyable, parce que je poussais quand même une pièce qui pesait 70 kilos, dans des paysages quand même compliqués, enfin voilà, où la pente et l'altitude peuvent être dures, quoi. Et donc voilà, ils étaient contents de me voir, et en même temps, il y avait tous ce truc. Et de voir l'œil luisant et vivant encore de l'animal, en fait, qui venait juste d'être abattu, ça a créé une sorte de choc. Et par le regard, je me suis glissé dans sa panse ouverte, et je me suis dit, mais peut-être je pourrais habiter, enfin, en tout cas me glisser dans cette fente et refaire vivre cet animal, en fait. Hein. Il y a une sorte de truc comme ça, d'image assez forte qui m'a traversé. Et je me suis baladé pendant longtemps après cette pièce avec cette rencontre. Et puis je me suis dit, mais comment je pourrais véritablement habiter un animal? Et petit à petit est venu l'ours. Et l'ours qui était, voilà. Et c'était pas totalement incongru que ce soit un ours, parce que voilà, l'ours c'est un très, très vieil ami de l'humanité, en fait. C'est aussi un animal qui a constitué notre relation à notre humanité, des questions, bon, c'est peut-être pas la modernité, mais en fait des questions quand même d'un moment de la séparation, d'un moment où l'humanité commence tout juste à séparer du monde dans lequel elle est, c'est-à-dire à la fois, c'est-à-dire qu'elle le regarde d'un peu plus haut, elle le surplombe. Alors c'est la période ignatienne, il y a longtemps. Mais c'est quand même un moment, en fait, où du coup, où on sent comme ça une sorte de construction qui se fait. Et en même temps, je trouve un moment qui est assez beau aussi, parce que c'est un moment où, enfin, en tout cas, dans ce qu'on en voit aujourd'hui, parce que, bien entendu, beaucoup de choses ont disparu avec le temps, enfin voilà, où je dirais presque qu'on est dans l'incapacité de se représenter en tant qu'humain. C'est-à-dire qu'on est encore attaché, il y a encore un cordon ombilical qui est là. Et l'humain, il a besoin de l'animal pour se représenter, parce que, ça c'est pas moi qui le dis, enfin je le répète, mais pour l'avoir lu, où en fait la société animale est beaucoup plus développée, beaucoup plus structurée, beaucoup plus intelligente, elle a l'intelligence de l'espace avec lequel elle vit. Par contre, l'humanité, elle est à ses débuts, quoi. Elle bricole encore. Enfin, c'est-à-dire qu'elle a déjà des technologies, mais c'est pas encore. Et donc, du coup, elle est totalement en pamoison devant cette force animale qui est déjà avec des sociétés beaucoup plus développées, des regroupements. Donc, voilà. Et donc, du coup, c'était ça aussi qui m'intéressait, c'était cette espèce de passage qui se construisait. Et c'est un animal, je pense qu'on a encore du mal à comprendre ses relations au monde, tout ça. Et en même temps, c'est un animal qui a toujours... dans toute société, a toujours été un animal un peu magique, quoi. C'est toujours un animal qui... C'est dans différents endroits sur différents endroits du globe et qui est lié toujours à la naissance de la société humaine. Enfin, et ça, c'est assez fort aussi, enfin, que cet animal est si proche, en fait, si proche de nous et si loin en même temps. Enfin, voilà, qu'il nous fasse si peur, qu'il habite toujours nos cauchemars, mais en même temps qu'il est aussi l'animal, la peluche qu'on offre aux enfants pour les rassurer la nuit. Et en même temps, c'est la force de la nature, quoi. C'est l'animal qui vient, qui au printemps se réveille. Parce que il y a aussi ça, c'est ce parti magique, ce moment où il disparaît, son hibernation, tout à coup il se retire du monde pour habiter la caverne. Voilà. Donc il y a ça aussi, puis qui renaît tout à coup, comme une sorte de renaissance, et puis qui renaît avec le printemps, avec tout ça. C'est aussi... c'est aussi, alors ça c'est pareil, c'est dans l'archéologie, c'est l'endroit de l'habitat partagé, c'est-à-dire où on a découvert qu'en fait, dans certaines abris sous roche ou cavernes, en fait, à un certain moment, l'ours habitait, puis après, c'est l'humain qui venait, sans doute pas aux mêmes périodes, voilà, donc du coup, c'est ça aussi, c'est cette espèce d'ambivalence, tout ça, de lien comme ça. Et puis c'est toujours un animal caste mythique parce qu'aujourd'hui, les questions de réimplanter l'ours dans les Pyrénées, il y a toujours c'est un peu comme le loup en fait, il y a un petit peu donc c'est toujours un peu là quoi.
Et donc quand toi tu t'enfermes. C'est un moment que tu appréhendes ou
Même si c'est une habitude, c'est toujours il y a toujours une appréhension. C'est un voyage en fait. Hein. À chaque fois, c'est des voyages. Donc, comme pour chaque voyage, il faut tout bien préparer. Moi, je suis jamais sûr au départ que la pièce va bien marcher, qu'il va se passer quelque chose ou rien. Donc du coup, il y a toujours une appréhension. Je pense qu'elle est importante, cette appréhension aussi. L'appréhension, c'est aussi une forme d'attention et de tension en fait, qu'on met en place pour être sûr que les choses se passent au mieux. Et c'est toujours un drôle de truc. Et surtout pour l'ours, même pour la pierre aussi. Qui était une des premières longues performances, c'était pas la première parce qu'on avait deux tard, qui était la première aussi longue dans un musée. Là, c'était quelque chose d'assez. Ouais.
Comment ça se passe exactement ? C'est-à-dire que c'est toi qui fermes derrière toi ou c'est quelqu'un d'autre qui ferme ?
Non, c'est quelqu'un qui ferme, il y a quelqu'un qui sort parce que souvent je peux pas fermer de l'intérieur. C'est un peu comme les voyages spatiaux, c'est-à-dire que c'est les cosmonautes qui ne ferment pas leur navette, c'est quelqu'un qui va fermer pour être bien sûr, parce que je pense qu'on est un petit peu dans un état second.
Est-ce que c'est un état de méditation dans lequel tu te mets ?
Oui, tout à fait, c'est un état de méditation et de voyage, de voyage en soi, de voyage de strates et de sphères autres, ouais, ça c'est sûr. Et c'était surtout, c'est surtout de s'apercevoir que on a l'impression que certes c'est petit, mais en fait, à l'intérieur, c'est immense. Enfin, à l'intérieur de soi, c'est très grand. Donc, du coup, c'est là qu'on s'aperçoit du voyage qu'on va faire à l'intérieur de soi. Et il faut bien le préparer aussi. C'est-à-dire que il faut bien tout organiser pour que le voyage se passe au mieux. Au départ, je faisais ça un peu freestyle. Maintenant, je prépare un petit peu plus. Il y a une sorte de... de toute façon, on se prépare mentalement. Entre un mois et une semaine avant, notre cerveau il est déjà en train de se structurer un peu différemment. En tout cas, il est en train de s'organiser. Et il organise le corps. Voilà. Ouais. Pour certaines pièces, par exemple, comme le Girovague, comme la pièce était lourde et comme c'était la montagne, là j'ai eu un entraînement physique. Enfin, j'ai fait un entraînement physique pour vraiment pouvoir porter une capsule comme ça dans un paysage qui pouvait être dangereux, enfin, où l'accident pouvait arriver. Donc ouais, il y a tout ça qui rentre en jeu. Et l'ours, par exemple, il m'arrivait fréquemment avant de dormir sur une chaise exprès qu'on avait toute préparée, qui était de la taille de l'espace, pour que je puisse voilà, pour que je puisse tester mes capacités, comment je sentais le truc, est-ce que c'était douloureux ou pas, et voilà. Je ressens pas trop, enfin moi je ne souffre pas trop de ne pas trop bouger, enfin des choses comme ça, parce qu'il y a des personnes, je sais que c'était vraie souffrance. J'ai pas trop d'angoisse non plus, voilà, mais c'est un tricotage avec soi, de toute façon, c'est un endroit où on tricote avec sa pensée, ses émotions, ses états. C'est une attention permanente, constante à soi, de savoir qu'une petite chose qui pourrait, qui n'a l'air de rien, pourrait devenir quelque chose d'assez complexe à gérer. Donc du coup, c'est d'être tout le temps dans l'attention et puis en même temps dans laisser aller, c'est-à-dire de ne pas se bloquer, de ne pas se dire « Ah là là, là c'est catastrophique. » Il faut laisser couler, il faut dire « Ok, c'est pas facile, là, il y a un truc un peu strange, mais on va y arriver et essayer d'être juste attentif.
» Oui, ça peut se comparer à la performance d'un musicien.
Ouais.
C'est à la fois mental et corporel et c'est une préparation de tout le jour.
Ouais. Et puis je pense que dans ces moments-là, entre guillemets, il y a un état second qui se produit, quoi. C'est-à-dire qu'on peut parler d'état de transe ou comme on veut, mais on est dans un autre état. C'est-à-dire qu'on est à la fois là et on n'est pas là. Mais c'est aussi c'est l'émotion qu'on ressent quand, par exemple, en tant que visiteur et lorsqu'on va voir une œuvre. Tout à coup, il se passe quelque chose. Voilà, bon, ça a été défini de plein de manières différentes, mais tout à coup, le spectateur est plongé dans un... À la fois, il est assis, voilà, comme là, par exemple, juste devant un châssis, qui fait tant de centimètres sur tant de centimètres, avec un peu de couleur, disposé de certaines manières, mais en même temps, il s'y produit quelque chose. Et qu'est-ce que c'est que cet endroit? Et cet endroit, il existe. Et juste la performance, enfin, en tout cas, pour mes performances, c'est d'être dans cet endroit-là. C'est de se dire, ben voilà, c'est là que j'ai envie d'habiter, c'est entre le regardeur et l'œuvre, et en fait, je vais essayer de voir ce que c'est cet espace. Quoi.
C'est entre deux.
Ouais, tout à fait. Ouais.
Merci beaucoup, Abraham.
Voilà.
Grammaire fantôme.
On se retrouve la semaine prochaine avec notre nouvel invité.
Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Une émission Panadia Lichtig.